L'association Grands-parents pour le climat et la Maison du développement durable accueillait le mardi 11 novembre la soirée Appel aux consciences pour le climat. L'événement visait à susciter le débat entre acteurs économiques, politiques, scientifiques mais aussi philosophiques à quelques jours de la COP21, la 21e conférence des parties sur le climat. Le public présent à l'auditoire Socrate de l'UCL a donc pu entendre et échanger avec Myriam Tonus, laïque dominicaine, Jean-Pascal Vanipperzeel, climatologue, Michael Privot, islamologue, Eddie Kakelberg, journaliste et ancien premier grand maître adjoint du Grand Orient de Belgique, Éric de Colener, professeur à la Solvay Brussels School of Economic and Management à l'ULB, et enfin Herman Van Rompuy, ancien président du Conseil européen. Vous allez écouter la première partie de la conférence.
Bienvenue pour cette soirée qui sera, je pense, une grande soirée. La Maison du développement durable a été créée en 2007 par la ville et par l'université. Et depuis lors, notre travail consiste en de la sensibilisation à la transition au développement durable. Et depuis maintenant un an et demi, on travaille avec les acteurs sur la thématique Ottigny-Louvain-la-Neuve, ville d'expérience de transition. Ce soir, c'est autre chose. Ce soir, c'est un rendez-vous quelques semaines avant la conférence de Paris sur le climat. C'est bien évidemment dans ce contexte-là que cette soirée est organisée. Il s'agit, vous l'avez vu, d'un appel aux consciences à chacun d'entre nous à titre individuel ou bien dans les organisations dans lesquelles nous sommes impliqués, associatifs ou sur les lieux de travail ou dans le milieu politique. C'est de ça dont il s'agit ce soir et je pense que les invités qui sont là pour nous inviter à la réflexion ont justifié votre présence et je pense que la qualité sera au rendez-vous. Cette soirée est co-organisée, comme je l'ai dit, avec une association au nom bien sympathique et que personnellement je ne connaissais pas, mais il paraît qu'il s'agit d'un grand réseau international qui vient de se doter de sa section belge, à savoir Grands-parents pour le climat. C'est en l'occurrence Thérèse Noy qui est à la barre avec d'autres de la création de cette section belge. Et c'est elle qui était quand même la grande organisatrice avec Aline Wouters et Alain d'Angoisse de la MDD de cette soirée. Je vais donc lui céder la parole. Thérèse Noy, vous la connaissez peut-être, sans doute. Elle était secrétaire générale et présidente d'Inter-Environnement Wallonie. Et jusqu'à un an d'ici, elle était parlementaire. Elle est dégagée de tout ça. Elle est donc grand-mère pour le climat. Et je lui cède la parole.
Voilà, bienvenue à tous et vraiment ça nous impressionne très fort ici l'équipe des organisateurs de voir que vous êtes venus si nombreux, vous nous avez fait confiance pour cette soirée. Nous sommes deux animatrices ce soir pour tisser le fil de nos échanges, c'est Aline Wouters et moi-même, nous représentons donc les deux partenaires de la soirée. Et nous sommes heureux, évidemment, d'avoir créé cet événement, de voir le succès qu'il a. Nous voulons tous sortir de cette soirée enrichis par les échanges, les témoignages que nous allons susciter, non seulement parmi les orateurs invités, mais aussi de la part de vous tous, enrichis dans nos têtes, dans nos cœurs, pleins d'énergie positive et créatrice. Je voudrais d'abord dire, et je le dis, avec vraiment de l'émotion, nous dédions cette soirée à nos enfants et à nos petits-enfants. À nos petits-enfants, peut-être qu'ils sont encore bien épargnés, mais aussi à tous ces petits-enfants qui sont déjà en péril aujourd'hui, qui sont déjà les victimes du changement climatique dans les régions du monde, ravagées par les ouragans, les inondations, l'érosion des terres et la déforestation. Alors, pour la Maison du développement durable, cette soirée s'inscrit dans la continuité et dans la grande cohérence de messages en faveur d'une transition écologique inspirée par des valeurs, les valeurs de solidarité, de respect et de non-violence. Pour les grands-parents, évidemment, c'est une grande première. Notre mouvement, comme l'a dit Jean-Luc, est nouveau et encore peu connu. Il est né au printemps de cette année et il vise à assumer nos responsabilités en faveur de nos petits-enfants, pour leur laisser, entre guillemets, une terre à vivre, une planète en paix, une planète encore verte, prospère et généreuse. Nous, grands-parents, donc, nous sommes inquiets, nous sommes indignés, nous sommes convaincus qu'il faut un changement profond, mais nous restons aussi bienveillants, bienveillants et optimistes pour nos petits-enfants, solidaires de tous les petits-enfants. Voilà. Alors, un petit mot en référence aussi à un événement qui s'est passé le 21 juillet en France. C'est Nicolas Hulot, conseiller donc du président Hollande, qui a organisé ce qu'il a appelé un sommet des consciences. Et Nicolas Hulot a publié donc récemment un livre qui s'appelle « Osons ». Osons, plaidoyer d'un homme libre. Et moi, il nous dit une phrase que j'aime beaucoup. Nous vivons sur un fil de soie de tolérance. Notre survie dépend d'une petite couche d'humus sous nos pieds et d'une fine pellicule délicate, l'atmosphère au-dessus de nos têtes. L'une comme l'autre, nous les saccageons. Maudits soient les yeux fermés, brisons cet ordre cannibale. Parole violente, mais sans doute parole de prophète. Nous, les grands-parents, nous sommes convaincus qu'un changement profond de modèle doit advenir. Et je pense que nous le savons tous en notre fort intérieur. Mais comment maîtriser, comment créer le chemin, comment maîtriser aussi le processus de changement dans la non-violence et dans le respect de chacun, dans la justice sociale. C'est pour ça que nous avons lancé cet appel aux consciences. Alors, on m'a dit, le mot conscience, bon, ça fait un peu ringard, ça fait moralisateur. Je voudrais dire ici que nous ne voulons pas parler ni d'une bonne conscience acquise un peu à bon marché avec quelques tickets de train, ni non plus d'une mauvaise conscience culpabilisante et inefficace. En fait, ce que nous voulons créer, c'est quelque part une pleine conscience de ce qui est et l'émergence d'une conscience collective qui refuse d'aller dans le mur et construit d'autres modes de vie. Car mettre un pull, isoler sa maison, prendre le train, sont des comportements évidemment souhaitables, vertueux, mais qui ne suffiront pas. Cette prise de conscience, elle doit nous conduire à interpeller les forces influentes du monde. Alors, c'est le politique, c'est aussi les grandes forces économiques, c'est les milliardaires, les multinationales, mais aussi, évidemment, les gouvernants et ceux qui vont, finalement, quand même, décider à Paris de notre sort. Alors, voilà, pour cet appel aux consciences, nous avons invité des personnalités qui ont ou ont eu des responsabilités importantes dans le monde politique, économique, médiatique, pour qu'ils témoignent. Nous, on ne veut pas un discours d'information de leur part ce soir, on veut un témoignage. Nous voulons savoir quel est leur engagement. Nous avons aussi voulu mettre en valeur, mettre en lumière les messages des leaders spirituels ou de courants philosophiques et demander à des personnes de ces communautés de pensée de témoigner, non pas au nom de leur église ou leur religion ou leur conviction, mais en tant qu'appartenant, en tant que libre appartenant à ces communautés de pensée. Et le premier qui va nous parler, nous sommes très heureux de l'avoir ici ce soir, et c'était inattendu. Jean-Pascal Van Ieperzeel. Jean-Pascal, scientifique, climatologue, professeur, enseignant non seulement pour ses étudiants, mais je pense que chacun d'entre nous sait à quel point il sait bien expliquer les choses, et nous l'entendons à la radio, à la télévision, avec toujours cette qualité pédagogique qui est tellement appréciable devant un phénomène aussi complexe. Jean-Pascal, négociateur aussi, capable de compromis délicats, d'avancées notoires dans des textes d'accords internationaux. Nous lui demandons d'entrée de jeu de resituer, je pense, le contexte de l'enjeu climatique dans une perspective peut-être intergénérationnelle et donc de nous dire ce qu'on peut espérer de la conférence de Paris. Je lui laisse la parole.
Merci Thérèse. Bonsoir à tous et à toutes. Je ne vais pas répondre tout de suite à la question, mais la réponse va venir un petit peu plus tard. Je vous demande de bien vouloir me suivre dans le temps. Nous sommes le 2 août 2044. Il est 7 heures du matin. La chaleur écrasante est toujours là. L'ozone aussi. Le comité de crise s'est encore réuni cette nuit. L'armée devra aider la protection civile et les pompiers. L'état d'urgence est prolongé. La sécheresse dure depuis la fin mai. Les cultures irriguées depuis une vingtaine d'années ne le sont plus. 5 agriculteurs se sont suicidés devant le 16 rue de la Loi avant-hier. La puissance de la centrale électrique au gaz vapeur de Tihange a dû être réduite car la Meuse est trop basse. Et les éoliennes tournent au ralenti, faute de vent. Il n'a pas encore été possible de réparer les voies du TGV Paris-Berlin qui a déraillé près de Louvain il y a une semaine, faisant 52 morts et 234 blessés à cause des rails déformés par la chaleur. Les scouts aident à hydrater les personnes âgées dans les homes dont les climatiseurs ne fonctionnent que 3 heures par jour, faute d'électricité. Il ne reste plus de place que dans la morgue improvisée dans les entrepôts frigorifiques d'Anvers. Ceux qui sont partis en vacances en Norvège n'osent pas revenir. Malgré les appels de la FEB à reprendre le travail pour sauvegarder la compétitivité des entreprises belges. La Banque centrale européenne a dû soutenir massivement l'euro face au yuan chinois, car les prévisions économiques sont sombres pour tout l'ouest de l'Europe suite à la crise climatique. L'Office des étrangers est débordé par l'afflux d'Égyptiens suite à une invasion de la moitié du delta du Nil par la Méditerranée, dont le niveau continue à monter. Et la guerre de l'eau entre la Turquie et la Syrie s'est encore aggravée. Il y a tout de même une bonne nouvelle. GlaxoSmithKline, Novartis, Nestlé, Suez vient d'annoncer la mise au point d'un vaccin contre le virus du Nil occidental qui avait emporté le roi William d'Angleterre il y a 5 ans. Et tout devrait bientôt aller mieux. Lors de la réunion spéciale du G15 de la semaine prochaine, la présidente américaine devrait annoncer que 12 sous-marins sont prêts à aller ensemencer l'océan austral avec du fer pour essayer d'accroître d'urgence l'absorption de CO2. Elle a aussi annoncé que les 4x4 urbains ne pourraient plus consommer plus de 18 litres au 100 km. C'est un texte auquel je n'ai rien changé, pas une virgule, pas un mot, et qui faisait partie d'un rapport que j'ai publié il y a 11 ans avec un collègue sur les impacts des changements climatiques en Belgique. Le 2 août 2044, c'est dans moins de 30 ans. Ce sera le jour du 51e anniversaire de mon fils aîné. Si je suis encore là, j'aurai 87 ans et je l'espère, des petits-enfants. Le monde plausible que j'évoquais ci-dessus sera-t-il celui dans lequel ses enfants vivront ? Sera-ce le monde dans lequel vivront les enfants que j'ai rencontrés en avril dernier pendant ma campagne électorale pour la présidence du GIEC dans le district de Machakos au Kenya ? Des enfants dont la région avait été gravement affectée par la sécheresse et qui retrouvaient le sourire petit à petit après des efforts de réhabilitation et de développement d'une agriculture plus résiliente, plus résistante aux changements et à la variabilité climatique. Sera-ce ce monde-là ? Je voudrais rêver que non. Et pourtant, l'humanité est bien partie pour aller dans cette direction. Les gaz à effet de serre émis depuis la révolution industrielle et principalement le CO2 dégagé par la combustion du charbon, du pétrole, du gaz et par le déboisement épaississent la couverture qui piège la chaleur au voisinage de la surface de la Terre. Le pourcentage de CO2 dans l'atmosphère a déjà augmenté de 40% depuis la situation pré-industrielle. La température a déjà augmenté de près d'un degré Celsius en moyenne mondiale. Je précise que nous ne sommes pas en 2044, nous sommes, au moment où je vous parle ici, dans ce paragraphe-ci, nous sommes bien en 2015. On vient de passer le cap des 400 ppm, des 400 parties par million en CO2 dans l'atmosphère, et on vient de passer le cap de l'augmentation d'un degré au-dessus du niveau de température pré-industriel. Donc on est dans l'actualité, là. Le niveau des mers a déjà monté de 20 cm aussi. La fréquence des vagues de chaleur et des pluies très intenses, la force destructrice des cyclones tropicaux ont déjà augmenté. Les premières conséquences du dérèglement climatique deviennent visibles, affectant toujours davantage les populations pauvres, les plus vulnérables. Un des objectifs de la 21e COP, la 21e conférence des parties à Paris, est justement de conclure un nouveau traité international, si possible, pour empêcher la température de gagner encore un demi ou un degré de plus, pour éviter un réchauffement considéré comme dangereux par les dirigeants réunis lors de la 15e COP, il y a 6 ans, à Copenhague. On sait maintenant, grâce au GIEC, que pour avoir au moins 2 chances sur 3, ce qui, vous me l'accorderez, n'est pas une probabilité si élevée que cela, pour avoir donc au moins 2 chances sur 3 de rester en dessous de la barre des 2 degrés de réchauffement, il faut que le total des émissions de CO2 depuis la révolution industrielle ne dépasse pas 2 900 milliards de tonnes de CO2. Un petit peu moins de 3 000 milliards de tonnes de CO2. Mais plus de 2 000 ont déjà été émises depuis la révolution industrielle. C'est donc une course contre la montre qu'il faut mener, car aujourd'hui, nous émettons à peu près 40 milliards de tonnes chaque année. 40 milliards par an, il y en a 900 avant d'arriver au seuil des 2900, tout le monde peut voir quel est le degré d'urgence. Si nous voulons maîtriser l'augmentation de température, il s'agit donc de décarboner l'économie mondiale complètement dans les 50 ans qui viennent, de façon à amener les émissions nettes de CO2 et de réduire aussi les autres émissions de gaz à effet de serre à zéro. Le GIEC a expliqué dans ses rapports plusieurs fois, et je ne vais pas entrer là-dedans parce que je crois que le débat va aborder ces questions-là, que c'était possible, à la fois techniquement et économiquement. Ce qui manque encore, c'est l'ambition, la détermination, le courage. Alors j'ai commencé par une citation, une autocitation, je vais terminer par une deuxième autocitation. C'est un extrait du dernier paragraphe de mon livre qui est sorti il y a quelques semaines. Un livre écrit notamment avec la collaboration de Philippe Lamotte, qui est ici ce soir, je lui rends hommage. Et c'est le paragraphe qui est tout à la fin du livre. Je le raccourcis un petit peu pour ne pas être trop long. Nous commençons à réaliser que c'est à nos propres enfants que nous risquons de léguer une planète moins habitable. Oui, de tels constats alimentent un certain pessimisme. Mais les solutions sont déjà à portée de main aujourd'hui. La manière dont l'énergie est produite et consommée va changer fondamentalement. Ce n'est pas de l'optimisme béat que de croire à tout cela. C'est l'optimisme de la volonté. Je suis convaincu que face aux manifestations de plus en plus visibles du problème climatique, une juste prise de conscience de la gravité de la situation va se faire. De plus en plus de personnes seront touchées dans leur cœur et comprendront profondément
l'urgence d'agir. Elles en trouveront alors le courage. Merci à tous les grands-parents pour le climat, aux parents, aux citoyens, aux étudiants, aux responsables politiques, aux personnes de référence pour différentes religions ou philosophies. À vous tous et toutes ce soir de mobiliser ce courage autour de vous. Merci.
Merci, merci vraiment beaucoup. C'était vraiment un témoignage et a touché, je pense, le cœur. Nous poursuivons maintenant avec les témoignages de trois personnes engagées dans une communauté de croyances ou de convictions. Nous avons jugé utile de faire appel à la dimension spirituelle et philosophique de nos identités pour affronter les enjeux écologiques. Parce que tout est lié. Les solutions au problème du dérèglement climatique ne sont pas purement technologiques ni économiques. Elles viendront aussi et peut-être essentiellement d'une approche culturelle, philosophique, spirituelle de notre relation à l'autre, à la communauté du vivant, à la planète. Alors, je commence juste en disant un mot du révérend Thich Nhat Hanh, moine bouddhiste. Les bouddhistes n'ont pas attendu l'arrivée de la COP21 pour avoir une conscience de le caractère sacré du monde. Et Thich Nhat Hanh disait « Ce monde est tout ce que nous avons. Chacun de nous peut agir pour protéger notre planète et en prendre soin. Notre manière de vivre doit garantir l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Notre manière de vivre sera notre message. » Alors, c'est Madame Myriam Tonus qui va commencer ce trio. Madame Tonus est grand-mère, elle est laïque dominicaine. Elle fait partie donc d'une communauté de chrétiens engagés au sein de l'ordre des dominicains, qui sont un ordre indépendant de l'autorité romaine de l'Église. Ça. Alors, Madame Tonus est chroniqueuse à la Libre, à la radio catholique. Elle est aussi aumônière du patro et donc très ancrée dans les réalités sociales. Ce soir, nous lui avons demandé de parler librement, bien sûr, du message papal de l'encyclique Laudato Si, qui est très largement salué, y compris par des non-croyants, pour son audace et sa radicalité.
Heureusement que dans le monde chrétien, en plus de la foi et de l'amour, l'espérance est une vertu cardinale. Et l'espérance, ce n'est pas un vague optimisme dans notre tradition, c'est oser retrousser ses manches et croire quand il n'y a pratiquement plus de raison de croire. Et après le constat très réaliste que vient de brosser Jean-Pascal Van Ieperzeel, je dirais, ben voilà, pour nous, c'est vraiment une question d'abord d'enjeu d'espérance, parce que, bien sûr, il y a cette encyclique et la personnalité, l'aspect très médiatique de notre pape fait qu'on a accordé un large écho à ce document. Je m'en réjouis. Ceci fait, je tiens quand même à dire que ce n'est pas une parole nouvelle. Laudato si. Ce sont les premiers mots de ce qu'on a appelé le Cantique des créatures de François d'Assise, XIIIe siècle. Loué sois-tu, frère soleil, sœur la terre, notre sœur eau. Et les prédécesseurs de Jean-Paul, de François, ont tous apporté des paroles fortes par rapport au respect de l'environnement. Mais ils étaient sans doute moins médiatiques. Et il faut dire aussi qu'à l'extérieur du monde chrétien, on s'attache beaucoup plus à ce qui peut être dit à propos de la morale sexuelle que sur bien d'autres choses. Ça fait 2000 ans que le christianisme, le catholicisme, excusez-moi s'il y a des frères ou sœurs protestants dans la salle, mais j'ai un peu de mal à chaque fois à distinguer, ça fait 2000 ans qu'on appelle de nos voeux des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Et c'est une expression qui recouvre toutes les blessures qui sont infligées. Infligées au monde matériel, à l'environnement, mais aussi infligées à l'être humain. Des blessures qui en ont pauvreté, exploitation, exclusion, cynisme, profit, pouvoir, la liste est longue. Il s'agit ni plus ni moins de changer les cœurs. Alors, comment je lis cette encyclique ? Comment je l'ai reçue ? Ben, c'est vrai que personnellement, en tant que mère, grand-mère, je me dis qu'en 2044, j'aurai des petits-enfants entre 30 et 40 ans. Et quand je les regarde, j'ai vraiment le cœur qui se serre. Et je vous assure que les jeunes avec lesquels je travaille, puisque j'ai le privilège de travailler avec de jeunes adultes d'un mouvement de jeunesse qui compte plus de 21 000 jeunes, ils sont conscients de ce qui les attend. Et vraiment, ils ont un besoin d'être soutenus, encouragés, parce que leur discours, c'est « nous savons ce que vous nous laissez ». Et de toute façon, ce n'est pas vous qui allez porter les conséquences. Et ils ont raison. Alors, il y a dans l'encyclique, Laudato Si, deux champs sémantiques. Il y en a un qui est très factuel et qui reprend des faits tels que ceux que Jean-Pascal Van Nieuwpersel vient d'aligner, des faits accablants. Et il faut reconnaître que le pape s'est entouré. Je pense que ce n'est pas lui qui a écrit toute cette partie très scientifique sur la pollution des couches phréatiques, etc. Mais au moins, il aligne des faits qui sont incontestables. Et je dirais, moi, ce qui m'a réjoui d'abord, c'est qu'au moins, pour une fois, on a les mains dans le cambouis. Et pas seulement la tête dans les cieux. Dans la mesure où, pour un croyant, et surtout depuis le Concile Vatican II, rien de ce qui se passe dans l'humanité ne peut nous être étranger. Ça, c'était dans les textes conciliaires. Les joies, les peines, les espérances, les désespoirs de l'humanité, nous avons à les prendre en compte et, si possible, à les encourager si ce sont des faits heureux et à soigner si ce sont des malheurs. Alors, je ne vais pas vous bassiner avec, je dirais, des propos qui touchent essentiellement les croyants. Mais sachez bien que cette encyclique, elle secoue. Elle est sans concession. Et moi qui suis loin d'être une fanatique des encycliques romaines, mais si je m'efforce de toutes les lire, et toute petite nuance, mais elle est quand même importante, nous ne sommes pas indépendants de Rome, nous sommes en lien symbolique. Donc ça veut dire que le pape n'est pas mon patron. Voilà. Mais nous faisons partie de cette église-là. Et j'aime cette approche très neuve dans une encyclique qui est d'analyser une situation qui est propre à tous les humains. Et c'est d'ailleurs un document qui est adressé à tous les humains qui vivent sur la planète. Ceci fait, je ne vous encourage pas à vous précipiter sur le document dès ce soir, parce qu'il est très long, trop long à mon sens. Et surtout, si l'on n'est pas croyant, il y a vraiment des parties qui ne concernent pas. Mais quand on est croyant, on se trouve tout d'un coup mis devant ses responsabilités. Et j'aime énormément le côté tranchant de cette parole. Parce qu'effectivement, on n'a plus le temps. Et je dirais, comme prêcheuse dominicaine, j'aime aussi ce côté tranchant de la parole, parce que c'est exactement ça qui fonde notre tradition. La parole de l'Évangile n'est pas une parole gentille, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire à certaines périodes, le bon et doux Jésus, etc., le Jésus tout un. C'est une parole qui fait se lever le jugement. Alors le jugement, il ne s'agit pas ici d'un jugement judiciaire, c'est l'instant de vérité. C'est ce qu'en grec on appelle la krisis. La krisis, c'est quand on doit discerner ce qui va vers la vie et ce qui va vers la mort. Et le seul critère de lecture de la réalité, c'est celui-là. Qu'est-ce qui fait vivre? Qu'est-ce qui fait mourir? Qu'est-ce qui nourrit l'être humain? Qu'est-ce qui le défigure, qui l'avilit, qui l'exploite, qui le mène à une mort même quand il est encore en vie? Et de ce côté-là, cette encyclique est absolument sans concession. Parce qu'effectivement, elle lie de manière intriquée tout au long des 110 pages la question du climat qui nous occupe plus particulièrement ce soir avec les questions éthiques, les questions sociales, les questions économiques. Comment traite-t-on les êtres humains? Que fait-on d'eux? Est-ce que ce sont des marchandises exploitables, que l'on peut dégraisser à bon compte, si j'ose dire? Et donc la parole que j'entends à travers ça, et qui m'encourage moi personnellement, c'est que c'est une parole qui invite non seulement à juger, c'est-à-dire à voir ce qu'il en est, à ne pas faire de concessions, mais aussi à s'engager, à agir là où l'on est. Alors je ne peux parler que pour moi, et il se fait que toute ma vie je l'ai passée au milieu des jeunes. Dans l'éducation, ce fut un vrai bonheur et j'ai ce privilège, même retraité, de pouvoir continuer à travailler avec des jeunes. Et je crois qu'il y a là quelque chose, vraiment, qui est en train de se jouer. Parce que les jeunes ne se sentent pas soutenus. Ce qu'ils entendent, c'est des discours dévalorisants, qu'ils ne s'occupent que de leurs jeux vidéo, qu'ils ne s'occupent que de vidéos, etc. Bien sûr, il y en a, comme s'il n'y avait pas des adultes qui passent leur vie devant leur télé, même devant des jeux vidéo. Mais il y a à côté de ça toute une jeunesse, et qui n'est pas croyante, hein, vraiment, qui est même totalement ignare des choses de la religion, mais qui a vraiment besoin d'être encouragée. Pouvoir se dire, et chaque fois que je vais dans une assemblée, je dis, écoutez, quand vous voyez des jeunes, dites-vous, vous avez peut-être parmi ces jeunes gens, ces jeunes filles, le futur ou la future présidente de l'Europe, on peut rêver. Le futur ou la future premier ministre, celui ou celle qui va inventer le traitement de la maladie d'Alzheimer, celui ou celle qui va mettre au point le moteur qui permettra effectivement de rouler sans tout détruire. C'est pour ça qu'on doit être à leur côté. Donc pour moi, ça passe d'abord. Mais ça, c'est mon engagement. Je ne parle que à partir de moi-même, mon engagement, c'est de soutenir les jeunes, c'est de les encourager, c'est de leur porter des informations quand ils en ont besoin. Et je vous assure que quand on vit dans un mouvement comme le Patro, ou quand on organise des petits dîners, c'est-à-dire au moins deux fois par semaine, c'est toujours avec des produits du circuit court, par exemple. On ne chauffe pas au-delà de, je crois, c'est 19-20 degrés, les locaux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on privilégie le covoiturage et surtout, merci la technologie, les vidéoconférences. Parce qu'il ne faut pas que 10 personnes se déplacent si on ne peut n'en déplacer que 2. Voilà, des choses comme ça. Donc ça veut dire que chez les jeunes, il y a déjà des réflexes pour changer les choses. Mais pour ça, il faut qu'on leur dise, mais allez-y, qu'on les implique. Moi, j'aurais souhaité, alors je suis heureuse de vous voir, mais j'aurais souhaité qu'il y ait ici 350 jeunes. Pourquoi ne sont-ils pas là? Voilà. Je vous encourage vraiment à avoir ce regard positif sur celles et ceux qui vont devoir payer les conséquences de ce que nous avons fait. Et je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, Madame Tonus. Vous nous donnez du tonus, si je peux me permettre. C'est un peu facile, mais bon. Alors, voilà, le pape François est loin d'être le seul leader religieux à s'être exprimé sur le climat et le respect de la planète. En fait, la première déclaration des leaders musulmans sur le changement climatique a été adoptée à Istanbul en août dernier. Elle est à la fois ambitieuse et précise en faveur de la protection des écosystèmes terrestres. Alors nous avons estimé effectivement indispensable d'entendre une parole musulmane dans ce débat, issue d'une communauté de plus en plus présente dans notre pays, d'autant plus que nous sommes très peu au fait de la vision de l'islam sur le respect de la nature, sur les ressources naturelles et aujourd'hui sur la question climatique. Monsieur Privot, merci donc d'avoir accepté de venir témoigner aujourd'hui. Vous êtes un homme de conscience, en recherche de spiritualité, ce qui vous a amené à vous convertir à l'islam à l'âge de 19 ans, mais aussi à continuer votre recherche spirituelle à l'intérieur de l'islam. Dans un livre qui a fait du bruit positif, vous avez su interroger l'imam Tarek Oubrou sur les fondements d'un islam vécu en Europe, recontextualisé et compatible avec les valeurs des droits de l'homme et le respect de la femme. Aujourd'hui, donc, nous vous invitons à nous parler de cette parole musulmane qui s'est exprimée dans la déclaration d'Istanbul, de nous dire si elle est relayée dans notre pays, et nous aimerions également connaître votre engagement, notamment dans la communauté musulmane. À vous la parole.
Alors, merci beaucoup, Thérèse, pour ces mots d'accueil et pour cette invitation. Alors, évidemment, comme vous l'avez dit, je suis islamologue, musulman. J'ajouterai aussi, pour l'orientation politique, que je me situe dans le camp éco-socialiste. Comme ça, vous voyez un petit peu d'où je parle. Alors, je vais déjà répondre à une de vos questions d'emblée par rapport à la déclaration d'Istanbul, en vous avouant qu'avant votre invitation, je n'en avais jamais entendu parler. Ça vous donne une idée. Alors, je ne dis pas que je sais tout sur l'islam, loin de là, ni même ce qui concerne de près ou de loin l'environnement, mais ça donne un petit peu l'impression d'une bande de leaders musulmans qui sont réunis dans un hôtel à Istanbul pour pondre un texte qui est en soi extrêmement intéressant, et j'y reviendrai, mais ce n'est pas quelque chose qui est porté par un engagement institutionnel, ce n'est pas quelque chose qui est porté par un engagement étatique, ça ne bénéficie pas du retentissement médiatique d'un pape, on n'en a pas. Et donc, voilà, c'est un effort méritoire qu'il convient de saluer cependant. Alors, je pense que ça reflète une chose dont on peut se réjouir, c'est que des leaders spirituels, qu'ils soient institutionnels ou individuels, se décident à produire du sens sur la question de l'urgence climatique. Car, on le sait tous aujourd'hui, ce n'est plus une question de préservation des fleurs et des petits oiseaux, mais une question profondément sociale, économique et surtout fondamentalement démocratique. En effet, toutes les crises que nous constatons depuis une trentaine d'années, et certainement encore depuis 2008, sont toutes des crises qui sont connectées à la faillite des démocraties représentatives parlementaires, à instaurer des rapports de force avec les intérêts privés et à faire valoir les décisions éclairées de la multitude qui comprend où se situe l'intérêt général commun. En une époque où aujourd'hui, je parle en tout cas de l'Europe, des États-Unis, de l'Australie, de ce qu'on appelle communément l'Occident, nous n'avons jamais été aussi formés, aussi éduqués de toute notre histoire. Je dirais que malheureusement, je ne vais pas, bien sûr, m'étendre sur la question démocratique qui demande à elle-même un approfondissement, mais en tout cas, je pense qu'il est important d'avoir ce contexte dans la tête, parce que c'est de ça fondamentalement que viennent un grand nombre de nos mots. Pour se rendre compte aussi que voilà, le processus de conscientisation est long, cruel face à l'histoire et face à l'urgence climatique. Mais on n'a pas le choix, on doit passer au travers. Des conférences comme celle d'aujourd'hui sont un signe que voilà, un plus grand nombre de gens commencent à se saisir de la question et veulent consacrer leur temps, leur énergie pour se former et mieux appréhender les enjeux pour agir, espérons-le, politiquement. Et donc, dans ce cadre, on se félicite, comme je le disais, que des musulmans participent enfin de manière plus active à cet effort de réflexion. Alors, cette déclaration islamique s'inscrit dans un mouvement finalement de base. Les communautés, ou je dirais les populations musulmanes au niveau mondial, se ressemblent à beaucoup d'autres groupes en cela, qu'on essaie ici et là de se questionner sur le bio, de se questionner sur le naturel, de faire développer des petites initiatives, de voir les connexions entre halal et naturel. On se pose des questions sur ces données qui viennent du Coran, sur les implications du fait que la communauté humaine n'est qu'une communauté parmi d'autres, parmi la communauté les communautés animales, les communautés des insectes, les communautés végétales, qui toutes ont leur langage, leur signe, leur code, prie Dieu d'ailleurs, et dans lequel la communauté humaine doit s'inscrire, sur les interrelations entre ces communautés, sur le fait aussi que les animaux ont une âme et connaîtront la résurrection, ce qui est assez en rupture par rapport à d'autres traditions spirituelles d'ailleurs. Donc on le voit, il y a des éléments qui sont épars, qui sont réfléchis aujourd'hui, mais ce qui nous manque quelque part, c'est qu'il n'y a pas de théologie musulmane construite sur la question. On en est encore au balbutiement. Et donc cette déclaration islamique, en ce sens, fait date, mais ce n'est pas une œuvre de théologie. C'est au mieux une réflexion, ou plutôt elle se situe sur le registre de l'admonestation, de l'interpellation vaguement morale, dirais-je, des puissants. Et je vous renvoie à une carte blanche que j'ai publiée ce lundi sur le site de La Première, où j'essaye de déconstruire, en tout cas, ou de tirer l'attention sur certains aspects, sur les limites de ce genre d'exercice. Et je citerai au passage le fait qu'il n'y a aucune remise en question, par exemple, du paradigme de la croissance. On aurait bien aimé avoir un petit peu des éléments sur cette question-là, sur les structures d'oppression capitaliste, ou encore une focalisation extrême ou excessive, dirais-je, sur la sortie des énergies carbonées. Mais surtout, ce qui m'a posé le plus de problèmes dans l'exercice, c'est qu'elle tend à chercher dans le Coran des éléments, dirais-je, proto-écologistes, alors qu'on sait que le Coran fut révélé à un peuple dont la décroissance n'était pas le souci premier, ni même la question des énergies carbonées. On verra ce qu'il en deviendra plus récemment, mais en tout cas, à cette époque-là, les puits de pétrole n'étaient pas encore à la mode. Et donc, c'est une contribution importante, mais véritablement un point de départ. L'enjeu, je dirais, pour nous, en tant que musulmans aujourd'hui, c'est donc d'articuler les éléments disparates dont je parlais plus tôt aux valeurs fondamentales du message coranique, la justice et le bel agir. Que veut dire la justice aujourd'hui en temps de crise climatique ? La justice pour l'homme, envers les hommes et les femmes, s'entend. La justice envers notre écosystème, y compris par exemple comment repousser la date du Overshoot Day. Qu'est-ce qu'implique aussi le fait de faire des bonnes œuvres, donc ce bel agir, à tout le niveau de la société ? Et comment doit-on comprendre ce bel agir pour parvenir à un changement de paradigme qui nous permette de gérer notre société au mieux ? Et donc, les nomades du moment coranique vivaient dans un univers extrêmement contraint. Leur survie dépendait de leur symbiose avec cet univers, créé et mis à leur disposition par leur divin. Aujourd'hui, notre conscience est globale et nous savons que notre univers est certes beaucoup plus vaste, mais tout aussi contraint. Et donc, c'est à partir de ces éléments qu'il convient d'agir. Et je dirais avant tout, comme être humain, responsable, mû par la préservation de notre intérêt général commun et au nom d'une éthique universelle et non pas d'une éthique strictement musulmane, chrétienne, maçonnique, juive ou autre. Car en vérité, nos convictions personnelles, finalement, ne viennent, selon moi, qu'apporter une légère teinte à un effort, à un projet d'ensemble. Faute de quoi, et je terminerai ici, d'ici une décennie ou deux, pour reprendre les mots de M. Van Ypersel, ou peut-être d'ici une trentaine d'années, ce sera sur les modalités du jardin céleste, cette fois, que nous discuterons, et non plus de notre avenir sur Terre. Car nos différences convictionnelles n'auront d'ailleurs beaucoup plus d'importance. La montée du niveau des mers, elle ne discrimine absolument pas entre les croyants. Tout le monde est à la même enseigne et tout le monde va y passer. Et j'espère sincèrement ne pas devoir voir ce jour-là. Et je vous remercie pour votre attention.
Vous venez d'écouter la première partie de la conférence débat Appel aux consciences pour le climat. La seconde partie sera diffusée le jeudi 19 novembre à 23h, avec une rediffusion le lundi 23 novembre à 9h. Bonne écoute sur Radio Campus.